Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Renat Secher, bonjour.
Bonjour.
La Vendée vengée, le génocide franco-français aux éditions Perrin. C'est la suite d'une première émission qui a commencé donc à aborder cette question qui vous a valu, alors vous en avez parlé un petit peu, un certain nombre, non pas d'ennuis, mais aussi beaucoup de succès, puisque l'ouvrage a retenu l'attention du public. Un point d'ailleurs qui vous a étonné. Hein.
C'est clair qu'on a été très surpris par la publication il y a 20 ans aux presses universitaires de France, tant en France d'ailleurs qu'à l'étranger, puisqu'en France, à l'époque, on a dû en vendre 80 000 exemplaires, puis il y a eu les États-Unis, l'Italie, la Pologne, etc. Et puis la nouvelle édition qui est sortie le 19 août 2006 est déjà un grand succès de librairie. C'est surprenant.
Et comment l'expliquez-vous, cet attrait pour cette partie de l'histoire de France qui peut-être est certainement méconnu. Hein.
Parce que c'est un sujet qui a été interdit pendant 200 ans, et en fait, le public a tout découvert. Et ça a réellement été un choc. Choc lors de la soutenance de thèse, en 85, choc lors de la publication en 86, avec cette émission apostrophe qui a fait la une des journaux. Et en fait, aucun travail, à l'heure actuelle, sérieux, n'est venu contredire ces conclusions, même au contraire. Les ont amplifiés.
Donc, la Vendée vengée, le génocide franco-français, dans une première mission, nous avons resitué le tableau de la Vendée. Comment était-elle à l'époque? À quoi ressemblait-elle? Quel était l'esprit aussi de ceux qui allaient s'insurger? Nous avons commencé à parler de cette guerre civile. On entre dans cette question évidemment très douloureuse et aussi très polémique, le mot de génocide franco-français que vous utilisez sans hésitation. Et ça répond à des définitions précises de génocide.
Absolument. Alors, la guerre de Vendée, c'est avant tout une guerre civile, comme on l'a vu tout à l'heure, qui commence en mars 93 et qui va s'achever en décembre 93. Il y a trois phases dans cette guerre civile. La première phase, qui va de mars 93 au 29 juin 93, correspond en fait à la mise en œuvre de l'insurrection sur cet immense territoire de 10 000 km². La deuxième phase, qui va du 29 juin 93 au 18 octobre 93 correspond à une stabilisation des forces en présence. C'est-à-dire qu'une fois que les Vendéens ont conquis leur territoire national, ils se sont dit on va aller vers Paris parce que le problème est parisien. Et ils vont constituer une armée et ils vont aller en direction de Paris. Mais ils se sont très rapidement rendus compte que plus ils s'éloignaient de leur base, plus leur situation devenait critique. Et ils vont s'arrêter à Saumur. Et là, ils vont revenir en Vendée militaire en se disant, deuxième concept, l'union de tout l'Ouest fera la force, donc il faut envahir la Bretagne et s'unir, c'est-à-dire le nord de la Loire. D'où la deuxième phase, c'est-à-dire qu'ils, comme il n'y a pas de pont sur la Loire, ils attaquent Nantes. Nantes allait tomber, puis le hasard d'une balle fait que le général Catelineau va être mortellement frappé et mourir. Il va y avoir un reflux et un échec, bien entendu, pour l'Union. Donc, durant cette deuxième phase, qui va du 29 juin au 18 octobre, même si les Vendéens gagnent bon nombre de batailles ou de coups de feu, le rapport de force, inévitablement, va leur devenir défavorable. Et à partir du 18 octobre, ils se disent il faut traverser la Loire pour essayer de conquérir la Bretagne par l'Est. Malheureusement, il n'y a pas d'historien chez eux. Et lorsqu'ils ont traversé la Loire, ils vont se heurter en permanence contre ce mur que je pourrais appeler ligne Maginot. Puisqu'il y a cette double fortification brito-française, ils vont se heurter sans arrêt à cela et ils vont arriver à Granville, qu'ils espèrent envahir, et Granville va résister, ils vont revenir, et ils vont réussir à pénétrer cette ligne Maginot, à la traverser, et malheureusement pour eux, il va y avoir une boucherie qui va se traduire par une extermination, mais due à la guerre civile, à Savenay, entre le 20 et le 25 décembre 1793. La guerre civile en Vendée est achevée. Je vous ai dit tout à l'heure que 60 à 65% du territoire national en mars 93 était insurgé vis-à-vis de Paris. En novembre 1793, il n'y a plus aucun lieu insurgé en France. Et la troisième chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les armées étrangères avaient envahi le territoire national. À partir d'octobre 93, toutes ces forces étrangères sur notre territoire a été battue. Et nous-mêmes, nous sommes en train d'envahir les pays circonvoisins.
Donc, illustre quand même, Reynald Secher, si je puis me permettre, la popularité de la Révolution ou pas ?
Non.
Son efficacité.
Son efficacité.
Comment les 0,001% de républicains dont vous nous avez parlé tout à l'heure peuvent-ils ainsi réprimer ?
C'est le mystère des révolutions. Et ce n'est pas du tout une spécificité de la Révolution française. Vous retrouvez ça dans toute l'histoire. Regardez ce qui s'est passé en Russie, ce qui va donner naissance à l'Union soviétique. Regardez ce qui s'est passé en Chine, au Cambodge, etc. C'est toujours une infime minorité qui s'empare et qui impose du pouvoir et qui impose une dictature. Ça, pour moi, c'est vraiment une énigme. Il n'y a pas de travaux sur la question. Je pense que ça devrait donner, ça serait un objet extraordinaire de thèse, cela.
Les colonnes infernales, c'était bien quand même des soldats, des hommes du monde.
Oui, alors ça, c'est un peu plus tardif. Alors,
mais il y a quand même eu des bataillons.
Oui, alors on va en parler, si vous permettez. Donc, à la fin de décembre 1793, ça y est, la Vendée militaire, c'est terminé. La Vendée ne représente plus aucun danger. Et c'est à ce moment-là qu'on va décider de mettre en œuvre l'extermination et l'anéantissement.
Qui est donc postérieur.
Alors, justement, la conceptualisation est antérieure. C'est-à-dire que, et je me suis intéressé à cette question, quand est-ce que, pour la première fois, le mot anéantissement et extermination arrive dans la bouche des conventionnels? Et en fait, très tôt, dès le mois d'avril 1993, nous avons un certain nombre d'hommes politiques ou d'élus, je pense par exemple à Barrère, qui se posent la question de savoir qui a osé s'insurger contre notre révolution. Et on décide de les exterminer. Ça, c'est la première phase, c'est la phase verbale. Deuxième phase, qui est unique dans l'histoire de l'humanité, c'est la phase légale. Et on va voter trois lois. La première loi, c'est la loi d'anéantissement du 1er août 1793, qui ordonne l'anéantissement matériel, notamment économique, de la Vendée militaire. La deuxième loi, c'est la loi du 1er octobre 1793, qui ordonne l'extermination de tous les brigands de la Vendée militaire. Et un certain nombre d'hommes politiques, de militaires, de fonctionnaires, demandent une définition au nom de brigands. Et on va définir de manière très simple. Toute personne résidant en Vendée militaire, qu'elle soit patriote ou contre-révolutionnaire, doit être exterminé. Et on va donner des précisions en la matière, et on va exterminer de préférence les femmes sillons producteurs et les enfants car en passe de devenir futurs brigands. Puis troisième loi qui est prise, c'est la loi du 7 novembre 1793 qui décide de débaptiser la Vendée pour l'appeler département Vengée. Alors au-delà du délire légal qui est unique dans l'histoire de l'humanité, comment faire appliquer les lois? Et là aussi, il y a trois phases. La première phase, puisqu'on est dans le scientisme, c'est la phase scientifique. Et on va vouloir innover en la matière en demandant à un certain nombre de scientifiques de créer, par exemple, le gaz pour empoisonner l'air de toute la contrée. Et on va faire appel pour cela au plus grand chimiste de l'époque, qui s'appelle Fourcroy, et qui ne va pas trouver la solution. Un pharmacien, Proust, des Ponce va lui avoir imaginé, avoir créé cette solution. Il va faire des essais sur des moutons en présence de conventionnels et le rapport de conclusion est très précis. Ni les moutons présents ni les conventionnels n'ont été incommodés. Donc échec
au gaz.
Deuxième idée, la mine. On décide de miner le territoire de la Vendée. Mais à l'époque, pas plus que de nos jours, on a créé la mine intelligente, celle qui est capable de sauter sous le mauvais. Échec à la mine. Puis troisième solution, l'empoisonnement à grande échelle à coups d'arsenic. Et on commence à œuvrer, mais on se rend compte que si on empoisonne sur l'ensemble du territoire de la Vendée militaire, l'eau, l'alcool, le pain, etc., ça peut être lourdes conséquences pour les troupes républicaines. Donc, échec au gaz. Et on va revenir à des solutions plus empiriques de cette deuxième période, c'est-à-dire l'extermination à coups de guillotine, à coups de noyade, à coups de sabrade, à coups d'éclatement de crâne, à coups de crosse, etc., etc. Et très rapidement, on va se rendre compte qu'il y a deux grands problèmes. Premièrement, les rendements sont faibles. Vous savez, l'exécution par la guillotine, par jour, c'est très limité. Le record, c'est 33. Il y a 815 000 habitants à exterminer. Les noyades, c'est la même chose. On peut mettre dans un bateau quoi, 800 000 enfants. Il y a 815 000 personnes à exterminer. Lorsque les républicains font sauter les crânes à coups de crosse, lorsqu'ils ont vu éclater les crânes de 2-3 enfants, de 3 ou 4 femmes, ils n'en peuvent plus, ils vont vomir, etc. Puis le coût. Le coût des opérations. Je lisais ce matin un article dans la presse, puisque Madame Royal vient de rendre hommage à la justice chinoise, à l'efficacité de la justice chinoise. Un journaliste rappelait que cette justice était non seulement expéditive, mais elle était curieuse puisque elle faisait payer la balle à l'exécuter. C'est une tradition dans toutes les dictatures. Et à l'époque, on considère que c'est à l'exécuté de payer son exécution. Et c'est très coûteux, une exécution. Je prends l'exemple de la guillotine. Non seulement il faut l'ériger, il faut l'entretenir. Par exemple, la peinture, elle est peinte en rouge, la guillotine, mais le sang est corrosif. Il faut gérer les prisonniers, c'est-à-dire les faire manger, les enjôler, les emmener sur les lieux d'exécution. Ensuite, il faut payer le bourreau. Vous savez, le bourreau, il est membre d'une profession libérale. Il est rémunéré 100 livres à la tête. Le porteur, il est rémunéré 50 livres. Un instituteur, entre guillemets, à l'époque, est rémunéré 100 livres par mois. C'est très coûteux. Et ensuite, lorsque le corps est coupé, il faut l'enfuir. Le sang qui coule 1 à 2 litres par exécuté, ça s'accumule, tout ça. C'est très coûteux. Lorsque vous
coulez
un bateau...
On ne connaît pas, en fait, le crime de masse à l'époque. On ne connaît pas ce qu'on
On n'a pas trouvé la solution. C'est tout simplement. C'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas trouvé la solution à l'utilisation du gaz, etc., on n'a pas trouvé la solution au crime de masse. On va la trouver par la suite. Bon. Donc, on va décider très tôt d'arrêter ces moyens pragmatiques en raison de leur manque d'efficacité et de leur coût. D'où l'idée de créer un plan d'extermination rationnel, efficace, crime de masse. Et ça va être le plan Thureau qui date de janvier 94 et qui s'appuie sur trois structures. Les colonnes infernales dont vous parliez tout à l'heure, qui se mettent en branle le 21 janvier pour commémorer l'exécution du roi. Deuxièmement, la flottille sur la Loire. Et troisièmement, ce que l'on connaît pas, la commission de subsistance qui est chargée du pillage de la Vendée. Ces généraux ne font qu'exécuter la loi. Et d'ailleurs, c'est si vrai que lorsque Thureau, qui a reçu l'ordre de se mettre en route, commence à œuvrer, les ordres sont très clairs. Il faut exterminer tous les habitants qui résident sur cette contrée, qu'il y ait des bleus, c'est-à-dire des républicains, ou des blancs, tout le monde.
Mais Thureau y avait manifesté quelques réticences.
Ah, pas du tout.
Non ?
Ah non, non, pas du tout. Thureau, on lui demande de faire un plan, il ne se pose aucune question. Et il va même, pour être sûr du bon droit, il va demander l'aval à son plan d'extermination au gouvernement.
Il cherchait une caution quand même.
Mais il l'avait en amont.
Pour être exagéré déjà, de toute responsabilité personnelle.
Et par la suite, il va la demander. Et c'est le ministre de la Guerre, Carnot, qui va lui répondre en disant que c'est exactement ce qu'on attend de lui. Et c'est la lettre du 8 février 1794. Et pour être sûr que la loi va être appliquée, on demande à chaque responsable, qu'il soit politique ou militaire, de rédiger par jour un double rapport similaire. Un pour l'Assemblée national, c'est-à-dire la Convention, et un deuxième pour le pouvoir militaire, c'est-à-dire le ministère de la guerre. Et c'est grâce à ce double rapport qu'on a pu retrouver le bilan de toutes ces opérations et les atrocités commises, par exemple comme les tanneries de peau humaine, comme la fonte des graisses pour faire des savons, la momification des corps, etc. Ça, l'horreur impensable et que l'on retrouve dans toutes les guerres idéologiques du 19e et surtout du 20e siècle.
Avec des moyens classiques.
Avec les moyens classiques, c'est-à-dire qu'on explique comment il faut découper la peau d'un Vendéen pour en faire un pantalon de gendarme, etc. Tout est très bien explicité. Bon, et donc tous ces rapports, on les a. Alors lorsque la Convention va tomber avec la chute de Robespierre, les députés concernés par cette histoire ont demandé la destruction de tous les documents politiques. Mais ils ont oublié que l'armée avait aussi ses doubles. Donc ils n'ont pas donné d'ordre à l'armée. Et l'armée, scrupuleusement, a déposé ses archives au fort de Vincennes. Malheureusement, un certain nombre de ces documents ont disparu, mais il reste l'essentiel. Et c'est là-dedans où on redécouvre tout. Alors les bilans de tout ça, est-ce que les bilans étaient possibles à établir ? L'idéal aurait été d'avoir, commune par commune, la liste des morts, la liste de l'habitat détruit. Alors, on a ça partiellement, commune par commune, grâce au registre clandestin des prêtres. Mais c'est insuffisant. Grosso modo, c'est 110 communes sur 770. Et en fait, j'ai appliqué une méthode démographique très américaine. J'ai évalué la population sous l'Ancien Régime, la population sous l'Empire, et la différence donnant grosso modo le nombre de disparus. Sur une population de 815 000 habitants, c'est au minimum 117 000. Et est-ce que cette idée...
Mais on est loin des 800 000 quand même. Hein.
Oui, et ben c'est un échec, oui. Mais même si c'est énorme. Il y a des villages qui ont été exterminés à 60%, d'autres avec des taux beaucoup plus marginaux. Bien. Alors, est-ce que cette idée de la révolution d'exterminer de préférence les femmes, si on est reproducteur, les enfants, ont été appliquées ? Oui, puisque tous les carottages que l'on a faits, par exemple au Luxembourg-Boulogne, à la Chapelle Basse-Mer, etc., vont tous dans le même sens. 70 à 80% des gens exterminés sont des femmes et des enfants. Alors, deuxième question, est-ce qu'on pouvait évaluer l'habitat ? A priori, non, puisqu'il n'y avait pas de liste commune par commune pour l'habitat. En fait, si, parce que Napoléon Ier a décidé d'indemniser la Vendée. Et il a indemnisé la Vendée, le département, en 1808, les Deux-Sèvres et la Loire inférieure en 1811-1812, le Maine-et-Loire devant être indemnisé en 1815, et malheureusement, pour les Maignots, l'Empire est tombé plus tôt. Et on a donc la liste de l'habitat détruit dans ces départements, et parallèlement, on a, grâce au cadastre, la liste de l'habitat existant. Conséquence, on a les deux chiffres, et là, on se rend compte qu'il y a des communes qui ont été rasées à 70-80% et puis d'autres à des taux moindres.
Renate Sacher, à tout de suite.
Partager le savoir, c'est la découverte avec nos journalistes de la présence de la langue française dans le monde. Avec Christa Leuc, vous rencontrez les directeurs des Alliances françaises. Avec Marianne Durand-Lacaze, vous vivez l'expérience et l'engagement des professeurs de français à l'étranger. Avec Françoise Thibault, vous visitez les universités du monde. Partagez le savoir en direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Au fil des pages, avec Renald Secher, La Vendée vengée, le génocide franco-français aux éditions Perrin, c'est une réédition d'un ouvrage de 1986. On est entré dans le cœur du sujet avec la question du génocide. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait plus d'insurrection en décembre 93 en France et que donc l'extermination a commencé en janvier 94.
Oui,
ça veut dire que la Révolution aurait très bien pu s'épargner.
Absolument.
Cette extermination.
Absolument. Et en fait, c'est Gracchus Babeuf qui explique ça plus tard, et on retrouve ça dans un certain nombre d'autres écrits de conventionnels. Il s'agit de faire de la Vendée un laboratoire. Si le peuple ne pense pas bien, il faut changer le peuple. C'est ça le concept. Donc, il faut faire de la Vendée un laboratoire et le fruit de l'expérience devant être exporté dans d'autres régions. Et la première région qui devait être exterminée par la suite, dont la programmation était faite, c'était la Bretagne. Et d'ailleurs, on commence à œuvrer en Bretagne assez tôt dans cette logique d'anéantissement et d'extermination dans le cadre du département du Morbihan.
Est-ce que les régions alentour vont s'apercevoir du drame qui se produit en Vendée à l'époque ?
Non seulement ils vont s'apercevoir du drame qui se produit, mais ils vont voter un certain nombre de mesures allant dans le sens de l'anéantissement et de l'extermination. Ils participent à la purification. On a des exemples. Ah oui, oui, on a des exemples très précis de délibérations municipales ou départementales qui vont dans ce sens-là.
Ce qui paraît extrêmement cynique parce que ces régions qui ne sont pas concernées, voilà, sont révolutionnaires.
Ils sont révolutionnaires. Il faut purifier. Parce qu'en fait, on se dit, il faut casser, briser ce souffle contre-révolutionnaire pour pas avoir d'ennui chez soi.
La Bretagne, qui a connu, vous l'avez rappelé, une insurrection et une répression, enfin sous Louis XIV, n'a pas réussi à se solidariser vraiment avec la Vendée à ce moment-là ?
Pour des raisons de circonstances, parce que la structure de l'organisation bretonne était une structure pyramidale et nobiliaire, avec à sa tête une clé de voûte, qui est la Rouairie. Le marquis de la Rouairie, un compagnon d'armes de Washington. Et la Rouairie va mourir très tôt. Il va mourir en janvier 1793, décapitant donc l'insurrection bretonne, trahi par son ami Cheftel, qui est un ami de Danton, d'où l'échec de Valmy d'ailleurs. Parce qu'en fait, on pourra en parler un peu plus longtemps dans le cadre d'une autre émission, il avait été prévu que Paris soit pris en tenaille par l'Est avec les troupes des Alliés, et à l'ouest, par l'insurrection généralisée de la Normandie et de la Bretagne. Et Paris devait tomber dans le cadre d'une tenaille. Et en fait, c'est Cheftel qui trahit, qui avertit Danton, et c'est Danton qui achète Brunswick avec les bijoux de la couronne, parce que Valmy est une non-bataille. Valmy est un achat, nous le savons maintenant. On a acheté le duc de Brunswick avec les bijoux de la couronne, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans sa succession. Mais c'est grâce à une trahison.
René de Secher, Lénine est allé en Vendée.
Oui, bien sûr, pour comprendre les méthodes. Mais la Vendée est vraiment une histoire matricielle.
On a une trace de ce voyage de Lénine
bien
en
sûr,
Vendée.
Vous avez sa maison à Pornic, vous avez même une plaque sur sa maison.
Mais il y est allé pour une raison bien précise.
Oui, pour étudier comment se passait une répression. Il y va avec sa maîtresse, hein, et séjourne. Mais vous savez, les principaux leaders des grandes révolutions marxistes de par le monde ont tous fait des séjours en France. Pol Pot, Ho Chi Minh, etc. Ils ont tous été de brillants universitaires en France.
Donc rien de nouveau en fait, c'est
rien
un laboratoire.
De nouveau. La révolution est un laboratoire.
Une question sur ce mot auquel vous tenez, celui de mémoricide.
Oui.
Parce que précisément vous avez énormément contribué à exhumer de la mémoire nationale cette histoire de la Vendée. Cette histoire dramatique, le mémoricide se distingue du génocide en quoi ?
Oui, alors, en fait, le génocide est un crime contre l'humanité. Il y a trois types de génocide. La conception, ou la réalisation partielle ou totale, ou la complicité dans la conception ou la réalisation partielle ou totale de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique, racial ou religieux. C'est ça la définition de génocide. Et d'ailleurs, à l'époque, dans le cadre des procès qu'il y a eu pour dénoncer les crimes contre l'humanité commis, entre autres, par Carrier et par Thurot, on va avancer dans le cadre des débats un certain nombre de définitions pour définir justement les crimes contre l'humanité. Bien. Aux mêmes conclusions que Nuremberg, comme quoi l'histoire se répète. Donc, à l'époque, donc il y a bien un génocide, proprement dit. À l'époque, on va appeler ça un popucide ou un système d'extermination et d'anéantissement. Bien. Qui, et ça c'est le fait spécifique de la Vendée, unique dans l'histoire de l'humanité, ce génocide a été conçu et voté par une assemblée souveraine qui décide de sang-froid d'éliminer une partie de son peuple.
Et ça, ça ne s'est pas répété.
Jamais. Toutes les mesures autres qui ont été prises au 19e siècle, au 20e siècle, dans les cas de régimes dictatoriaux, que ce soit les régimes staliniens, léniniens, hitlériens, etc., tous les crimes commis ont été des crimes politiques et administratifs. Aucun de ces crimes n'a été voté par les assemblées nationales souveraines. Alors pourquoi est-ce que je parle de mémoricide ? Parce qu'à l'époque, on avait parfaitement conscience à la fois du crime commis en Vendée et de la spécificité de ce crime. Et à l'occasion de procès pour crimes contre l'humanité organisés à l'encontre de Carrier et de Thurot, parmi d'autres, on décide de tout faire pour maintenir la mémoire, pour pas que l'histoire bégaye, pour pas recommencer. Et un certain nombre d'idées fusent, l'érection de monuments, l'impression des documents originaux, etc., etc. Et Napoléon Ier lui-même a réfléchi sur la mémorisation de cela. De même que Louis XVIII et Charles X, dans le cadre de la Restauration, comment faire en sorte que le souvenir se pérennise? Comment faire en sorte de réparer? Donc, on écrit beaucoup, on aide les épouses des anciens généraux à rédiger leur mémoire, on facilite l'érection des monuments, l'entretien de cette mémoire. Alors, comment cela se fait-il que, 200 ans plus tard, non seulement on ne s'en souvient pas, mais deuxièmement, on le nie?
Parce que ça veut dire que tout au long du 19e, on a essayé de réparer.
Alors, en fait, on essaie de réparer jusque...
Napoléon jusqu'à...
Jusqu'à Charles X. Et après... La rupture, c'est Louis-Philippe Ier. Louis-Philippe Ier qui va essayer de créer le mythe de la Révolution propre. Et pour ce faire, il va faire trois choses. Pour commencer, il va détruire toute expression de la mémoire en Vendée. Mais ce qui est vrai en Vendée est vrai ailleurs. Deuxièmement, il va payer un historien qui s'appelle Michelet pour créer le mythe d'une révolution propre. Et troisièmement, il va se porter garant de cela. Conséquence, on va réécrire l'histoire, on va gommer les traces en Vendée. Il y a Taine qui a écrit là-dessus en 1884. Il faut lire Taine, Hippolyte Taine, qui explique qu'en fait, Louis-Philippe Ier va expurger l'histoire réelle de tout ce qui pourrait nuire à une histoire propre. Et il prend des exemples très précis. Lisez Taine, il faut lire Taine. Et puis en fait, localement, on va se défendre, on va dénoncer à la fois la philosophie et la politique. Et en fait, lorsqu'on va ériger la chaire de la Révolution française, on va s'arranger pour qu'il y ait toujours un homme de gauche et de préférence un marxiste pour que ce nettoyage continue.
Donc de Michelet à aujourd'hui,
bien sûr,
ça toujours continue.
Absolument. D'où la surprise de ceux qui faisaient l'histoire officielle par rapport à ce livre et par rapport aussi aux données rigoureuses qui avaient été rassemblées et qui avaient donné naissance à ce livre. Donc après tout le délire de négation en disant mais non, il n'y a jamais eu de loi, etc. Et moi je dis aux gens, vous avez toutes les références dans ce livre. Si vous ne me croyez pas, référez-vous à ces références et allez voir les documents originaux. Quand je mets une référence, elle est très précise. Il suffit d'ouvrir, par exemple, le journal officiel du 1er octobre 1793 pour lire la loi d'extermination. La loi d'anéantissement, le journal officiel,
oui,
le moniteur.
C'est irréfutable.
Si vous voulez pas me croire au niveau des bilans immobiliers, allez voir aux archives, commune par commune, la liste de l'habitat détruit, etc. Si vous voulez pas me croire au niveau des tanneries de peau humaine, au niveau par exemple de l'asphyxie des gens à Nantes dans le cadre des bateaux, où en clair on met les enfants et les femmes dans les bateaux parce que le bateau coûte cher quand on le coule 2000 livres et on se dit mais on peut pas le récupérer, ça coûte trop cher, donc on va transformer ces bateaux en chambres d'asphyxie et les gens meurent dans des conditions épouvantables, ils crient, etc. Et en fait, il va y avoir une pétition de la part des riverains du quai de la Fosse qui est transformé en mouroir, une pétition vis-à-vis du maire de Nantes en disant « Nous, on ne peut plus supporter ça parce que ça nous empêche de dormir, tout simplement. » Mais tout ça, c'est dans les archives de Nantes. Et vous avez les références.
Donc, irréfutable, le mémoricide... Aujourd'hui, vous diriez que nous sommes dans une phase de redécouverte de l'histoire, que les choses touchent à leur fin, ou qu'on est encore dans cette idée que l'histoire propre domine, que tout est verrouillé?
Pour moi, la Vendée est matricielle. C'est-à-dire, un journaliste en 1930 disait qu'on était incapable de prévoir l'avenir de l'Allemagne nationale socialiste, que cet État allait devenir un État criminel, parce que nous refusions de lire notre propre histoire, et notamment l'histoire de la Vendée. J'écris des pages là-dessus. Et nous avions commis ce crime suprême, il n'utilisait pas le mot de mémoricide, mais il aurait pu l'utiliser, qui nous empêchait de lire l'histoire future qu'allait commettre le nazisme. Et en fait, je pense qu'il faut définir un nouveau crime de génocide. Je vous ai parlé tout à l'heure de la conception, ou de la réalisation, ou de la complicité dans la réalisation ou la conception. Je pense qu'il faut absolument que les tribunaux internationaux prennent conscience de l'enjeu de la mémoire. Et je pense qu'il faut absolument inscrire comme crime de génocide le crime de mémoricide.
Mais est-ce que vous verriez d'un bon œil, puisque ça fait l'objet quand même de nombreux débats, le fait d'inscrire une vérité historique dans la loi, avec toutes les lois mémorielles qui concernent alors d'autres populations, celles qui ont connu l'esclavage par exemple, mais est-ce qu'on pourrait l'imaginer, l'étendre à des périodes de l'histoire et
ces lois existent.
Aux Français ?
Je pense que, arrêtons de regarder les poutres dans les yeux de nos voisins, sachons aussi regarder les nôtres. Et je pense que on ferait une bonne œuvre en le faisant, en disant, bien sûr, une histoire n'est jamais propre, mais il y a aussi des histoires matricielles dont l'analyse peut nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé ailleurs. Et d'ailleurs, bon nombre des crimes commis au niveau mondial par un certain nombre de dictatures, je prenais tout à l'heure un certain nombre de noms de dictateurs, ont puisé l'essence dans la Vendée. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à cette Vendée, réfléchir pour concevoir l'avenir possible. Regardez, par exemple, qui aurait pu imaginer, par exemple, qu'il puisse y avoir des colloques de négation des crimes de génocide commis vis-à-vis des Juifs ? Eh bien voilà, on y est. Mais vous savez, les bicentenaires, c'est la même chose. On a empêché, dans le cas des colloques scientifiques, toute intervention d'historiens qui avançaient ce concept de génocide.
Mais quand je parlais des lois mémorielles et du mémoricide en particulier, et vous avez parlé des tribunaux, vous imaginez une forme juridique à l'atteinte à la mémoire ?
Je pense.
Comment défendre la mémoire concrètement ?
Je pense qu'il y a une justice qu'il faut savoir rendre. C'est-à-dire, il faut reconnaître que l'État français reconnaisse ce qu'il a commis vis-à-vis.
Une forme de repentance.
Une forme de repentance, mais au-delà de repentance, une reconnaissance. Bien. Et puis, en même temps, ça sous-entend un certain nombre de choses. Comment cela se fait-il qu'il puisse y avoir encore de nos jours des noms de criminels contre l'humanité qui soient donnés à des lycées, à des rues ? Je prends un exemple. Comment peut-il y avoir des lycées Robespierre ? Comment peut-il y avoir des rues Carnot ? Comment peut-il y avoir, dans le cadre, par exemple, sur les voûtes de l'Arc de Triomphe,
Thuro.
Le nom de Thuro ? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une place Hitler au centre de Berlin ? C'est impensable.
Oui. Donc là, il y aura un travail de révision.
De révision.
Merci beaucoup, Reynald Secher, d'être venu nous parler de La Vendée vengée, le génocide franco-français aux éditions Perrin. Une émission donc en deux parties. Les deux émissions sont téléchargeables dans la médiathèque.